Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1.
Europe 1. 10h, 11h.
Médiapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour Catherine.
Bonjour Olivier, bonjour Justine et bonjour à tous.
Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est Médiapolis à nouveau spécial coronavirus dans cette pandémie insensée. On vient d'entendre le docteur Jimmy Mohamed. Il faut maintenant souhaiter avoir attrapé le virus pour un jour pouvoir bouger. Chaque jour est un peu plus fou. L'émission est réalisée par Jean-Luc Arblat, préparée par Thibault Lambert, animée en compagnie de Justine Holman. Je suis à Paris dans mon 21 mètres carrés avec une ligne numérisée. Catherine, même chose chez elle. Jean-Luc et Justine sont en studio à Europe 1. Et l'émission est faite aujourd'hui à nouveau avec nos merveilleux correspondants à l'étranger en ligne. Blandine Hugonnet à Rome, Henri de la Guérie à Barcelone, Hélène Cohen à Berlin. Johanna Chabas nous rendra compte de ce qui se passe au Royaume-Uni. Elle était notre correspondante jusqu'à il y a peu. Xavier Yvon, lui, sera de New York. Et enfin, Dominique Bressot nous parlera de l'Argentine. Mais pour commencer, un peu d'humour comme d'habitude avec Canteloup.
Ça grince entre Paris et Pékin. La secrétaire d'État aux affaires européennes, Amélie de Montchalin, a accusé la Chine de mettre en scène sa façon de sauver l'Europe du Covid-19.
Oh là là.
Ça a provoqué évidemment la colère du gouvernement chinois.
Oui, bonjour, c'est Super Jean-Pierre, le super ami des Chinois.
Bonjour Jean-Pierre Raffarin.
Oui, bonjour. Franchement, elle est teubée la Montchalin ou quoi? Non, mais c'est bien le moment, franchement, choisi de s'engueuler avec la Chine. C'est eux qui produisent les masques sanitaires, les lits médicalisés, les ordinateurs, les respirateurs artificiels, et on va se briller avec eux.
Oui, on sait, c'est pas faux.
Non, mais c'est pas faux, parce que qu'est-ce qu'on produit, nous, en France, hein? Du vin, des Twingo et des sacs Vuitton. Moi, je veux bien qu'on envoie des Twingo par dizaines et des sacs Vuitton dans les services de réanimation. Mais est-ce que ça va vraiment sauver des filles, la Twingo et le sac Vuitton? Je n'en suis pas sûr. Bon, le pinard, c'est un autre sujet. Éventuellement, ça permet d'oublier qu'on va tous mourir.
Mais qu'est-ce qu'on fait, du coup, alors?
Rêver dans un garage.
Ça va pas, non?
C'était Nicolas Canteloup imitant Jean-Pierre Raffarin, mercredi 1er avril sur Europe 1. Jean-Pierre Raffarin, j'ai cru comprendre, Catherine, que parfois il vous exaspérait quelque peu.
Écoutez, m'exaspérer, enfin quelquefois, je trouve qu'il retweet un peu trop vite les tweets des ambassadeurs chinois. Mais enfin, c'est vrai que le rapport du renseignement américain dit que la Chine a menti sur son bilan Covid-19, qui peut croire qu'il y a eu seulement 3 000 morts, dans la province de Hubei. Alors pourquoi confiner 50 millions de Chinois? Pourquoi supprimer 20 millions de lignes téléphoniques autour de Wuhan, si ce n'est pas pour faire taire les habitants? Pourquoi kidnapper l'épidémiologiste héros de la lutte contre le SRAS, le chercheur Zhu Nanshan, 84 ans, pour qu'il dise à la télé que le virus vient d'Amérique, alors qu'on sait très bien que le virus est parti du marché de Wuhan, qui a été incendié depuis, comme on fait disparaître les scènes d'un crime. Et dans ce marché, on offrait aux consommateurs des animaux que l'OMS avait repérés depuis longtemps comme des réserves de virus très dangereux pour la planète, où l'on trouvait des chauves-souris, des pangolins, des lézards, etc. Bon, et vous savez que les Chinois font abattre en Afrique des milliers de rhinocéros parce que leur corne réduite en poudre serait, paraît-il, un aphrodisiaque. Alors, mais quelle coïncidence! Vous voyez, la Chine, ces jours-ci, a interdit la vente des viandes sauvages sur les marchés, leur consommation. Mais elle autorise toujours les patients de se traiter avec la bile des ours, ces ours noirs d'Asie enfermés, ligotés dans des cages, où leur abdomen est perforé pour extraire la bile de leur vésicule biliaire et qui vivent un calvaire. Un reportage que j'ai vu à la télé m'avait bouleversé, est absolument scandaleux. Bon, aujourd'hui, la Chine profite de la pandémie pour promouvoir sa diplomatie sanitaire, faire du business en produisant des masques, des appareils, d'ailleurs qu'elle donne aux plus offrants. Mais moi, je pose une question. Qui osera demander des comptes au régime chinois?
Oui, le pire étant... C'était notre correspondante à Pékin, Catherine Ney, qui demandait comptes. Non, mais en plus, le problème, par exemple, sur ces millions de lignes téléphoniques, c'est qu'on ne sait pas faire le tri entre celles qui auraient été autoritairement supprimées par le Parti communiste chinois et celles de personnes morte, tout simplement. Mais c'est ce qui laisse soupçonner, parmi beaucoup d'autres choses, l'étendue du mensonge. Catherine, on va revenir un peu en France, puisque juste après, nous allons, comme promis, aller en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Argentine, mais juste la France. Est-ce que vous seriez d'accord qu'une personnalité politique, une autorité publique qui a particulièrement trouvé ses marques depuis notre émission de la semaine dernière, c'est Édouard Philippe. Je dis depuis notre émission de la semaine dernière, parce que c'est après notre émission de la semaine dernière qu'il y a eu sa très longue conférence de presse avec des spécialistes, et puis qu'il y a eu ensuite sa réponse aux questions des parlementaires à la mission de l'Assemblée nationale, et son intervention de réponse à des questions de français sur TF1 et LCI. Et on a l'impression que lui a un nouveau discours. D'ailleurs, vous y avez fait écho, je crois, dans votre édito ce matin. Que j'ai écouté. Un nouveau discours, beaucoup plus de vérité, dans lequel il dit voilà ce que je sais, voilà ce que je ne sais pas, et même voilà ce qui est possible, voilà ce qui est aujourd'hui pas possible.
Mais oui, parce qu'il a le courage de dire qu'il ne sait pas. D'ailleurs, personne ne sait. Personne ne sait si les gens qui ont été malades seront vraiment immunisés, si ceux qui n'ont, combien de temps il faudra. On ne sait rien sur. Vous voyez, on voit que le confinement, qui était une décision grave, était difficile et presque plus facile par rapport aux questions que pose le déconfinement, qu'on ne peut pas annoncer aux Français parce qu'on ne sait pas quand on pourra le faire. Et puis, comme il l'a dit, ça ne pourra se faire qu'en coordination avec les Italiens, les Espagnols, les Allemands. Enfin, vous voyez, c'est des problèmes. On ne sait pas où va le pays, combien de temps va durer la crise économique. Vous voyez, c'est.
Qui est terrible, c'est que dans le fond, il y a un certain nombre de choses qu'on commence heureusement à connaître sur le génome, sur les tests sérologiques qui vont arriver, etc. Mais à chaque fois qu'on fait un petit peu reculer le nombre incroyable d'inconnus de cette pandémie, à chaque fois surgit une nouvelle inconnue. Est-ce que ce médicament est efficace ou pas ? Est-ce qu'il faut que tout le monde porte des masques ou pas ? Est-ce qu'il faut confiner comme si ou pas ? Donc il y a une sorte de facteur très anxiogène par le fait que de nouvelles inconnues surgissent tout le temps. Mais je pense que là-dessus, c'est pas que je suis pas juge, j'ai pas à distribuer des bons points, mais je crois être porte-parole de beaucoup de ce que ressentent les Français, et c'est ça ce que j'essaye d'analyser, et que Édouard Philippe fait vraiment le job d'une façon assez remarquable.
Ah oui, je crois que les Français l'ont découvert parce que il est impavide, il répond avec courtoisie, prend son temps, il a l'air d'être sincère et il est bon. Et d'ailleurs, la Macronie dit heureusement qu'on l'a et qu'ils se sont repartis les tâches entre le président qui est plus sur le terrain et lui qui est en vigie à Matignon. Mais vous savez, pour cet exécutif-là, Nicolas Sarkozy avait eu la crise venue d'Amérique, la crise financière, François Hollande a dû confronter la vague terroriste, mais eux, c'est une crise sans précédent qui affecte tous les gouvernements qui sont aussi dépassés qu'eux. Et donc, ils gèrent au mieux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à la fois, on les critique, mais que leur popularité monte, parce qu'on voit, bien qu'ils tiennent le choc. Voilà.
Voilà. Si on résume de deux mots, on pourrait dire que à Emmanuel Macron, l'incarnation et la compassion, et à Édouard Philippe, l'explication.
Voilà.
Bon,
c'est
alors
bien résumé.
Merci, on va aller en Italie parce que, enfin, j'espère que Blandine Hugonnet est bien avec nous. Blandine ?
Oui, bonjour Olivier.
Formidable, vous êtes avec nous. Alors dites-nous un peu qu'est-ce qui se passe en Italie ? D'abord, la courbe, l'évolution de la maladie ?
Alors l'évolution depuis 15 jours de la maladie, c'est un peu les signes encourageants que la protection civile souligne désormais. Elle qui annonce chaque soir les bilans précise bien qu'il faut regarder ces signes positifs parce que la courbe se stabilise, elle s'aplatit sur un plateau, c'est-à-dire que c'est pas un pic, hein, il précise bien ce pic n'est pas une pointe mais bien un plateau, une courbe aplatie sur lequel on voit un nombre de décès qui tourne autour de 750 morts, ce qui reste énorme bien sûr, hein. Mais ça reste stabilisé, ça n'augmente plus comme les jours précédents. La semaine dernière encore, il y avait eu des bilans records. On avait vu fin mars quasiment 1000 morts en une journée. Ben, ce n'est plus le cas. La contamination se calme, on va dire, y compris voilà sur le nombre de personnes testées positives. Ils ont augmenté hein, le nombre de tests faits chaque jour. On est quasiment à 40 000 tests aujourd'hui par jour effectués. C'est le double que la semaine dernière. Et malgré ça, les chiffres des personnes contaminées chaque jour qui s'ajoutent au bilan, eh bien, sont de moins en moins nombreuses. Et c'est vraiment une lueur d'espoir, la lumière au bout du tunnel, dit le gouverneur de la Lombardie, qui souligne aussi que d'ailleurs, hein, grâce à ces chiffres positifs, eh bien, les hôpitaux étouffent beaucoup moins dans le Nord.
D'accord. Alors, on a une autre question qui est, qu'on va poser un peu d'ailleurs dans les différents pays, qui est celle de la popularité des dirigeants. Catherine venait de citer ce qu'il en était en France. Je vous pose la question et vous me répondez juste après une courte pause, s'il vous plaît.
Ce matin, Olivier Duhamel et Catherine Ney sont de chez eux pour Mediapolis. Ils continuent à vous informer en toute sécurité. Et ce samedi, on fait un tour du monde avec les correspondants d'Europe 1 pour voir comment est gérée et vécue la crise à l'étranger, notamment en Italie, avec Blandine Hugonnet.
Donc Blandine, la question était cet étonnant président du Conseil, l'équivalent à moitié de notre président, moitié de notre Premier ministre, qui gouverne maintenant avec le Parti démocrate de centre-gauche, alors qu'avant il était avec le mouvement populiste de la Ligue. Est-ce qu'il est populaire ?
Et oui, il est extrêmement populaire. En tout cas, ces dernières semaines, hein, sur cette crise sanitaire, il a pris 15 points de popularité en un seul mois. Il est à 61% selon le dernier sondage Ipsos. Giuseppe Conte, voilà, qui apparaît de plus en plus régulièrement depuis le début de la crise devant les Italiens pour s'exprimer directement en leur disant « restez chez vous », en leur donnant les consignes, les nouvelles restrictions, en leur disant « voilà, je vous demande encore des sacrifices ». Et il est très écouté, très attendu aussi quand il annonce qu'il va parler. Et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de réactions à chaque fois qu'il annonce, qu'il prend la parole sur son compte Facebook, parce que souvent, il s'exprime en direct sur son Facebook. Et puis, les mesures qu'il prend, les restrictions très fortes hein, qu'il a décidées tout de suite, rapidement, au début de l'épidémie qui s'est déclarée le 20 février en Italie, eh bien, sont vraiment approuvées par une large partie de la population. 75% des Italiens approuvent hein, ces mesures de confinement strict et appelle aussi à les maintenir le plus possible. Il y a une espèce de peur que si on relâche maintenant les choses, une deuxième vague de contamination apparaisse.
Oui, est-ce que c'est une découverte pour les Italiens ? Parce que c'était a priori un personnage qui n'avait pas un grand charisme. Et puis quand il s'exprime pour d'ailleurs annoncer des décisions courageuses, c'est plutôt sur un ton neutre. Alors, ils ont trouvé un chef, les Italiens ?
On pourrait dire qu'ils ont trouvé un chef de crise sanitaire, oui, parce que chef de crise politique ou chef de crise tout court, c'était moins le cas, même si sur la crise politique de l'été dernier, quand le gouvernement est tombé parce que Matteo Salvini de la Ligue d'extrême droite a fait un coup raté pour finalement essayer de prendre le pouvoir, mais finalement voilà, la coalition s'est cassée la figure au dernier moment. Et bien là, Giuseppe Conte est un peu apparu comme celui qui allait tenir la barre politique à ce moment-là, mais en même temps on sentait que c'était un non-choix, que les Italiens subissaient un peu la situation sans pouvoir choisir, sans pouvoir voter pour un chef. En fait, vraiment dans cette crise sanitaire, c'est lui qui apparaît comme celui qui tient tout. C'est vraiment maintenant qu'il se révèle, parce que voilà, c'était un avocat, un professeur de droit, etc. Il n'avait pas du tout cette carrure du politique que peuvent avoir le tribun Matteo Salvini et le Matteo Renzi, ex-président du Conseil aussi, qui était la figure du centre-gauche, du Parti démocrate, etc.
En préparant cette émission avec vous, vous nous avez signalé qu'une des inquiétudes était économique pour le Sud, parce que notamment le Sud fonctionne beaucoup dans une économie souterraine qui risque d'être massacrée. Et on va écouter un petit son d'un vendeur de glace et juste après vous nous expliquerez cette détresse, cette inquiétude.
On va avoir de l'argent de l'État dans la semaine, mais ça arrive trop tard. C'est une personne très généreuse qui nous a payé les courses aujourd'hui. Avec ça, on va pouvoir tenir quelques jours au moins.
Donc c'est là la nouvelle angoisse ?
Oui, c'est ce que la presse a appelé la bombe sociale du Sud, la poudrière même sociale du Sud, cette crise, non pas sanitaire, parce que l'épidémie est vraiment contenue dans le sud de l'Italie, mais la crise sociale et économique qui pointe son nez, hein, avec, on a vu des épisodes ces derniers jours d'appels à la révolte sur Facebook pour aller voler les supermarchés. Il y a eu hein, d'ailleurs des épisodes de vol de familles qui sont allées en Sicile, à Palerme, hein, dans les supermarchés, essayer de remplir des caddies et de partir sans payer, ce qui a créé aussi des épisodes de violence. Hein, alors pas seulement en Sicile, il y en a aussi à Naples, en Calabre, dans les Pouilles, toute cette moitié sud de l'Italie. Il faut savoir que c'est vraiment les régions les plus pauvres du pays. Le gouvernement, en réponse à cette situation, face à cette urgence alimentaire, puisque la population se plaignait de pas pouvoir se payer à manger, a débloqué 400 millions d'euros d'aide pour aider les familles. Sauf que, eh bien, vous le disiez, c'est dans ces régions où se concentre 80% de l'économie souterraine. Ça veut dire qu'il y a environ 3 millions de personnes qui sont des travailleurs au noir et qui n'auront pas droit à ces aides de l'État. L'autre dernière crainte de cette situation dans le Sud, c'est qu'en fait, la mafia, tout simplement, pourrait finir par en profiter. En aidant ces familles en difficulté que l'État ne peut pas aider, eh bien, étendre son réseau, continuer une mainmise sur la population. Et c'est ce que craint aussi hein, l'État en constatant que, malheureusement, cette poudrière sociale est prête à exploser dans le Sud.
Merci beaucoup Blandine Hugonnet, c'est vraiment passionnant d'avoir ce regard qui nous montre à la fois tout ce que cette pandémie peut avoir de commun dans les désastres qu'elle provoque ici et là, et aussi des très grandes différences selon la situation politique, géographique, sociale des pays en question. Et d'ailleurs il y a un autre pays où on va aller dans quelques instants, à savoir l'Espagne, où là aussi la situation politique est absolument à l'inverse de ce que vous venez de nous décrire sur l'Italie. C'est avec Henri de Laguérie qu'on va rejoindre juste après une très courte pause.
Jusqu'à 11h, Mediapolis s'intéresse à la crise du coronavirus à l'étranger. Olivier Duhamel et Catherine Ney sont de chez eux pour analyser les témoignages de nos correspondants sur place, comme c'est le cas d'Henri de Laguérie, correspondant pour Europe 1 en Espagne. Olivier Duhamel, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes toujours là ou peut-être Catherine Ney?
Non, oui, je suis là, bien sûr.
Ah, bah oui, parfait. Oui, oui, oui. C'est à vous.
Ah d'accord, pardon. En fait, je vais vous dire, c'est ma petite chienne qui s'est mise à aboyer, donc ça m'a un peu inquiété. Henri de Laguérie, donc vous êtes notre correspondant en Espagne, j'allais dire en Catalogne, parce que vous êtes, je crois, basé à Barcelone, et la situation politique, comme je le disais tout à l'heure, en Espagne est très différente.
Oui, effectivement, elle est très différente de l'Italie et de tout le reste de l'Europe, finalement. Et peut-être que, Olivier, vous aurez, vous, une explication, parce que les spécialistes de la science politique s'arrachent un petit peu les cheveux ici pour comprendre qu'est-ce qui se passe ici. On est le seul pays où la popularité de l'exécutif s'effondre. Il y a une vraie baisse de la popularité de Pedro Sanchez dans cette crise. 38% seulement désormais des Espagnols considèrent qu'il gère bien la crise. Et on se demande pourquoi, parce qu'ici, des erreurs ont été commises, évidemment, comme dans tout le reste de l'Europe, des événements qui ont eu lieu alors qu'on aurait pu peut-être déjà les annuler. Mais finalement, beaucoup ici disent que c'est cette espèce de concurrence qu'il peut y avoir entre les régions. On a finalement un pays extrêmement décentralisé, et tout le monde le sait, et un pays qui, d'un côté, peut très bien fonctionner comme ça, mais de l'autre, en période de crise, on a un sentiment de concurrence entre les 17 régions, 17 mini-gouvernements, finalement, concurrence entre les régions, concurrence entre les régions et l'État. Il y a eu les critiques des indépendantistes catalans qui sont très fortes, mais il y a également les critiques du gouvernement régional de Madrid qui est à droite contre le gouvernement madrilène. Donc un sentiment de cacophonie, de zizanie en Espagne qui explique peut-être aussi ce manque de popularité de l'exécutif.
Oui, ce qui est très bizarre, c'est que les régions ne sont pas solidaires entre elles pour accueillir des malades d'une région à l'autre. C'est incroyable.
Oui, c'est assez incroyable parce qu'il y a de très fortes disparités. On le sait, les deux principaux foyers sont Madrid et la Catalogne, où dans ces deux régions, il y a vraiment des hôpitaux saturés. Et il y a des régions où ça va un tout petit peu mieux, où il y a encore de la place dans les hôpitaux. Et pour le moment, la question se pose à peine. Je crois que la région de Valence a éventuellement proposé d'accueillir des malades, mais pour le moment, les autres régions n'ont pas répondu à cette offre. Il y a finalement, oui, une espèce de concurrence. Et un exemple très, très simple, c'est que la région de Madrid, la région de Catalogne ou d'Aragon, je crois, ont directement commandé du matériel, ont fait venir des avions de Chine. Et finalement, on a un peu en Espagne ce qu'on a dans toute l'Europe, une espèce de cacophonie. Et chacun tire un petit peu la couverture à soi.
Alors, ce Pardon, allez-y Catherine.
Non, je vous disais aussi qu'on n'intube pas tous les malades, on fait un choix parce qu'on ne peut pas soigner tout le monde.
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement délicat ici et qu'il faut peut-être replacer dans son contexte. C'est un document qui a été publié par la presse cette semaine, qui émane un document interne des autorités catalanes qui recommande, ce n'est pas un ordre évidemment, qui recommande eh bien, d'éviter peut-être d'entuber les personnes les plus âgées, parce que c'est vrai, il n'y a pas de matériel pour tout le monde. Alors après, j'ai quand même discuté avec des médecins qui me disent ce tri, même si c'est un terme très dur à entendre, il se fait toujours dans la médecine. Il s'agit aussi d'éviter l'acharnement thérapeutique, mais évidemment en ce moment c'est une question beaucoup plus qui se pose davantage puisque le matériel manque.
Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas éviter de faire mais qu'il faut parfois éviter de dire, hélas. Par ailleurs, il me semble que une partie en tout cas des responsables politiques s'en prennent à l'Europe. Nous avons une intervention de la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arantxa González-Laya, mardi sur Europe 1, qu'on va écouter.
S'il y avait certains qui pensaient qu'il y avait une Europe à plusieurs classes, ils vont découvrir que ce n'est pas le cas. On est face à une pandémie. Ce n'est pas 2008 aujourd'hui, c'est 2020. On a un problème qui nous touche tous. On va tous être impactés par les coronavirus. On va tous devoir faire des dépenses gigantesques pour maintenir nos économies en hibernation pendant la durée de cette maladie. Et il faut faire plus de solidarité européenne, mais pas comme de la charité. Peut-être faudrait-il un budget européen un peu plus conséquent.
Là, on s'aperçoit qu'à la fois, il y a beaucoup d'actions de solidarité et de politiques communes qui sont engagées en Europe et d'argent mis massivement par la Banque Centrale Européenne, de programmes par la Commission, mais en même temps qu'il y a cette espèce de division qui persiste entre quelques pays d'Europe du Nord et particulièrement les Pays-Bas et ceux notamment de l'Europe du Sud.
Oui, effectivement, et ça c'est vrai que c'est les propos du ministre des Finances des Pays-Bas la semaine dernière ont vraiment choqué ici en Espagne, en Italie aussi et au Portugal. D'ailleurs, le Premier ministre portugais, c'est le premier qui est monté au front après la ministre espagnole des Affaires étrangères. On a le sentiment de revivre un petit peu ce qui se passait ici pendant la crise financière. Vous savez, les pays du Sud, on les appelait les pigs. Et c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup d'argent dépensé pour les pays du Sud, sauf que, et des erreurs commises ici, bien sûr. Mais là, on a le sentiment que c'est un petit peu injuste, que cette épidémie, eh bien, elle frappe toute l'Europe. Et c'est vrai que peut-être l'Italie, l'Espagne ont la malchance d'être les premiers. Donc on a l'impression qu'eux s'en sortent vraiment moins bien. Mais quand on regarde les chiffres, malheureusement, on a le sentiment que ça y est, l'Europe du Nord aussi va arriver vers des chiffres similaires à l'Espagne. Donc ça a été plutôt mal vécu ici. Et juste un dernier petit mot sur les aspects politiques. Peut-être pour expliquer l'absence de popularité de Pedro Sanchez, je vous écoutais par rapport au Premier ministre français, Édouard Philippe. C'est vrai que Pedro Sanchez, dans ses interventions, il manque un petit peu d'empathie, de ce mot un petit peu rassurant pour essayer de que les choses soient un tout petit peu plus douces à entendre. Et c'est vrai que ces discours sont peut-être un peu froids. Et c'est le problème en général de cette classe politique espagnole. On l'avait vu lors de la crise financière avec Rajoy. On l'avait vu lorsque à Barcelone il y avait eu ce référendum et la police avait frappé des manifestants. Il manquait peut-être cette empathie, voilà. Et un dernier mot, il y a quelqu'un qui se fait remarquer en ce moment positivement, or il n'avait pas une grande popularité, c'est le maire de Madrid, José Luis Almeida, qui est du Parti Populaire, et c'est vraiment l'une des rares personnalités qu'on découvre ici, et au-delà des clivages politiques, qui montre un visage plutôt humain, et qui lui, pour le coup, joue le jeu de la solidarité avec le gouvernement, qui est un gouvernement à gauche, rappelons-le.
Merci infiniment Henri de la Guérie. Empathie, ça rime avec la Guérie, même si la rime est un peu pauvre, ça rime encore mieux avec Mutti, c'est-à-dire avec Angela Merkel, et en Allemagne, tout baigne, Hélène Kohl.
Oui, alors écoutez, Angela Merkel, Mutti, c'était la bonne nouvelle hier, est sortie de sa quarantaine parce qu'en fait, elle avait été en contact étroit avec un médecin qui a été testé positif au Covid-19. Et donc, on a expérimenté ici en Allemagne le télétravail au plus haut niveau puisque nous avons été gouvernés par Angela Merkel depuis son appartement du centre de Berlin pendant donc 2 semaines. Mais tout va bien, elle est sortie. Et en tout cas, effectivement, tout va bien parce que pendant ces 2 semaines où Angela Merkel était en quarantaine, la force de frappe de la machine gouvernementale allemande nous a été exposée d'une manière assez spectaculaire. On a eu le vote d'un immense plan de soutien financier, 1100 milliards d'euros. L'Allemagne n'a eu besoin de ça. Alors ça, c'est nouveau. L'Allemagne a choisi de s'endetter, donc elle a choisi de sortir la clause d'exception. Donc on a le droit de faire une exception au mécanisme de frein à la dette dans des circonstances exceptionnelles. Le gouvernement et le Bundestag ont jugé que cette épidémie était une circonstance exceptionnelle. Et donc, on s'est endetté, mais seulement à hauteur de 156 milliards sur un plan de 1100 milliards. C'est vous dire si l'Allemagne avait des réserves financières. C'est l'élève modèle de la rigueur, on l'a dit pendant des années en Europe, avec parfois une vision un peu négative. Elle était très critiquée pour cette politique de l'austérité qu'elle prenait. Et ben, en même temps, l'Allemagne a réussi à mettre beaucoup d'argent dans ses caisses, tout en préservant son système de santé, parce que ça, c'est assez spectaculaire. Et on l'a vu au cours des deux dernières semaines. Quand on s'est parlé il y a 15 jours, Olivier et Catherine, je vous avais dit, voilà, on attend la vague de l'épidémie. Eh bien, elle n'est toujours pas là. Il y a eu certes une augmentation des cas, la pente continue d'augmenter, mais la pente est moins pentue, si vous voulez. La progression est plus lente. Et ce qu'on constate surtout, c'est que le système de santé résiste. On a même augmenté les capacités de lits. Et puis, l'Allemagne a organisé de manière assez spectaculaire, au cours des 10 derniers jours, le transfert de plus d'une centaine de malades venus d'Italie, de France, des Pays-Bas également. Il y a encore 10 patients parisiens qui doivent arriver aujourd'hui en Bavière.
Oui, mais cette politique de santé qui marche si bien, est-ce qu'avec il y a plus de lits par 100 000 habitants en Allemagne qu'en France, avec dans une proportion considérable, est-ce que c'est pas aussi la réussite de la politique des Länder? Parce que la chancelière, c'est pas elle qui a décidé de ce que devait faire chaque Länder au point de vue santé, politique de santé.
Effectivement. Alors on a un petit peu craint au début de la crise que le fédéralisme allemand était en train de montrer ses limites, parce qu'il y avait une sorte de cacophonie au début avec toutes en fait 16 politiques de confinement un peu différentes entre les 16 régions allemandes. En l'occurrence, ce qu'on est en train de voir, c'est que l'État fédéral, le Bund, réussit à finalement maintenir une forme de cohésion. Alors vous avez raison, cette politique de santé, elle dépend de l'État fédéral, mais aussi des régions. L'Allemagne a en fait, si vous voulez, 17 ministres de la santé, comme elle a 17 ministres des finances. Il y a le ministre fédéral et puis les ministres dans les Länder. Et effectivement, ce qui fait que on a en Allemagne une bonne répartition du maillage sanitaire, même si clairement il y a quand même des différences entre l'Est et l'Ouest, notamment. Mais c'est aussi ce qu'on voit là, et ça c'est assez spectaculaire, de voir comment on a, face à cette crise, une excellente coopération entre les ministres de la coalition ensemble, donc les ministres de gauche, les ministres de droite, la CDU et le SPD. C'était pas gagné, on a quand même vécu pas mal de crises en interne ces dernières années. Donc une très bonne cohésion, on a une très bonne coopération aussi entre l'État fédéral et les différentes régions, entre Angela Merkel et les présidents de région. Tout le monde va dans le même sens, et je dirais même que même l'opposition joue le jeu de cette union sacrée. L'AFD a voté le paquet de réformes, et ça c'est historique. Le gouvernement a une popularité de 63% actuellement, ça n'a jamais été mesuré aussi haut depuis que le baromètre existe. Angela Merkel, 14 années au pouvoir, 63% de popularité, au point que le Bild Zeitung se demandait avant-hier s'il ne fallait pas qu'elle propose de faire un cinquième mandat. Alors là, quand même, on en est loin, mais
non, d'accord.
Ça serait spectaculaire.
J'entends bien que c'est le succès d'un État fédéral. J'entends bien que c'est le succès d'une union nationale. Mais c'est aussi le succès de la puissance industrielle de l'Allemagne. C'est pas seulement qu'elle a le plus de lits d'hôpitaux, c'est aussi qu'elle a le plus de respirateurs, c'est aussi qu'elle a le plus de tests, c'est aussi qu'elle a le plus... C'est la puissance industrielle de ce pays qui aujourd'hui la protège, non ?
Alors effectivement, on a même déjà vu en quelques jours, il y a eu des exemples notamment en Bavière où le maire de ville, en l'espace de deux jours, réussissait à complètement changer l'économie de sa ville. Voilà, dans le tissu économique, le tissu industriel est vraiment partout en Allemagne. Vous allez dans n'importe quel petit village de Bavière ou de Hesse et vous trouvez une grande entreprise qui produit. Il y a de la production. L'Allemagne est vraiment ce qu'on appelle ici un Standort. L'Allemagne produit des choses et donc elle est capable, comme elle a des structures de production, de très vite basculer dans une économie de crise. Mais effectivement, vous avez raison, elle avait déjà, avant l'arrivée de l'épidémie, Voilà, beaucoup de respirateurs, beaucoup de laboratoires, des chercheurs, une recherche et un développement. On le voit chez Siemens, on le voit chez Bosch, qui viennent de mettre en place des nouveaux tests encore plus rapides. Donc il y a vraiment une force de frappe. Donc ça nous donne un peu un sentiment de sérénité face à cette crise. Et on l'a vu vraiment cette semaine, l'argent est arrivé sur le compte des premiers entrepreneurs, des premiers indépendants. Le formulaire de demande d'aide a été mis en ligne vendredi dernier. Il y a eu une journée un petit peu où ça a saturé, il y avait trop de monde qui le demandait. Mais lundi, les premiers Berlinois ont réussi à remplir ce formulaire. 12 heures plus tard, les 5000 euros étaient sur le compte. Et ça, ça a concerné 500 000 personnes à Berlin. Je peux vous dire que même ici, on est absolument baba devant ce succès bureaucratique et financier.
Merci beaucoup Hélène Kohl. Efficacité et sérénité en Allemagne. Je crains qu'il n'en aille pas de même au Royaume-Uni. Johanna Chabas, vous nous dites que, je crois, Boris Johnson s'est déclaré contaminé, si j'ai bien compris.
Ben c'est ça, il y a à peu près une semaine, il a fait une vidéo pour annoncer que lui avait été testé positif, qu'il était malade, qu'il avait les symptômes. Donc, comme il le conseille à tous les Britanniques, il s'isole, il ne va plus être en contact avec qui que ce soit. Il continue à travailler à distance, il se montre en vidéo, en photo, montrer qu'il est toujours à la tête du pays. Mais voilà, c'est le dirigeant européen touché par le coronavirus.
On peut dire qu'il se met en scène un peu à la Trump, à la différence, je veux dire, quand vous, c'est une communication, enfin, dans le sens positif de ce terme, c'est un moyen de s'exprimer avec ses concitoyens radicalement aux antipodes d'Edouard Philippe. Edouard Philippe se fait pas filmer dans sa chambre et des conneries comme ça.
Ben, c'est sûr qu'il se filme lui-même, c'est senti que c'est fait voilà, sur son téléphone portable de lui-même et tout ça, mais il y a un peu ce côté avec Boris Johnson qu'il se filme, on sent qu'il est malade, ça se voit au visage qu'il est un peu touché, qu'il a de la fièvre. Et donc chez lui, il y a un peu un côté, je pense que, et on le voit aussi dans les sondages, ça lui apporte plus d'empathie, les gens l'apprécient un peu plus. Voilà, on comprend que lui aussi est touché, que c'est une maladie qui peut toucher n'importe qui, qu'elle va pas juste éviter les hommes politiques. Et donc, ça lui apporte de la sympathie par rapport peut-être à Trump. Ou voilà, c'est un moyen de connecter aussi avec les Britanniques partout dans le pays.
Oui, son ministre de la Santé, lui aussi, est testé positif et lui aussi est confiné. Alors, est-ce que les services de santé sont aujourd'hui débordés?
Alors, il y a de plus en plus d'inquiétudes au Royaume-Uni parce que on est un peu en retard par rapport au reste européen. Donc nous, ça continue de monter. On est à plus de 500 nouveaux morts par jour. On est vraiment en ce début de pic. Et les services de santé ont de plus en plus de mal. Ils sont obligés de construire des hôpitaux de campagne pour pouvoir accepter tous les malades. Il y en a un qui a ouvert près de Londres hier pour accueillir 4000 patients. On est
équipé,
en retard sur le nombre de respirateurs.
Bien équipé ou pas?
Plutôt bien équipé. Le problème, ça va être qui pour les soigner, qui va pouvoir venir dans ces hôpitaux de campagne. Le gouvernement a fait un appel pour les volontaires. Il y a 750 000 personnes qui ont accepté de revenir aider le service de santé, des anciens retraités ou des étudiants, pour venir en aide à ce service de santé qui commence à saturer et qui commence à avoir du mal à pouvoir soigner correctement tous les malades.
Merci beaucoup Johanna Chabas, c'est très précieux de vous avoir et prenez bien soin de vous. Nous allons maintenant franchir dans une minute trente, l'Atlantique pour voir la situation de plus en plus critique aux États-Unis avec notre correspondant Xavier Yvon, juste après une brève pause.
Quels sont les effets politiques du Covid-19 à l'étranger? C'est la question que se posent Olivier Duhamel et Catherine Ney ce matin dans Mediapolis. Pour y répondre, ils sont en ligne avec nos correspondants, justement, et direction les États-Unis tout de suite.
Et on va entendre Trump et vous nous expliquerez après, Xavier Yvon, notre correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, comment c'est accueilli.
Si on n'avait pas fait la distanciation sociale, si on n'avait pas fait tout ce qu'on a fait, on parlerait de 2 200 000 morts. Alors si on arrive à 100 000, c'est un chiffre horrible. Mais si on a entre 100 000 et 200 000 morts, on aura tous fait du très bon boulot.
Alors Xavier Yvon, est-ce que les Américains restent, en tout cas ceux qui soutiennent Trump, restent derrière lui malgré cette succession de palinodies?
Oui, mais il y en a même plus qui restent derrière lui, puisque je vais vous surprendre, mais la courbe de popularité de Donald Trump augmente ces derniers jours. Alors, pas énormément pour un président qui se pose en chef de guerre et qui devrait avoir derrière lui tout le pays. C'est pas du niveau d'un Bush après le 11 septembre, mais il n'a jamais été aussi populaire dans les sondages.
Mais c'est complètement hallucinant, je veux dire. Un président qui aurait fait de telles volte-face chez nous, il serait totalement déconsidéré. Comment ça s'explique ?
Oui, mais ben, en fait, c'est Trump dans toute sa splendeur. C'est du Trump tout craché. C'est-à-dire qu'il dit des choses tellement énormes que, en fait, ça passe. Nous, on détaille ses déclarations, on regarde ce qu'il dit en détail, etc. Sauf que, en fait, ce que voient la plupart des Américains, c'est Donald Trump en direct à la télévision, tous les jours, entouré par des experts santé quand il les invite, sinon c'est souvent des militaires ou ses conseillers qui louent son leadership. Il voit un président aux manettes qui s'agite tous les jours à la télévision, qui fait un show. D'ailleurs, le briefing de Trump, c'est devenu un show. Comme Trump est privé de ses meetings qu'il adore avec ses fans un peu partout dans le pays, où il peut pendant des heures discourir sur tout et n'importe quoi, mais il le fait à la télévision en direct, et donc ça marche. Voilà, on a un président aux manettes qui assène qu'il sait ce qu'il fait, et donc il y a beaucoup d'Américains qui le croient, mais le show, ça va jusqu'à ce que j'ai l'impression d'avoir à un moment un présentateur de téléachat. Un jour cette semaine, Donald Trump a présenté un nouvel appareil mis au point pour un test pour dépister très vite en quelques minutes le coronavirus. Bah, c'est lui-même qui l'a sorti de la boîte, qui l'a posé sur une table comme s'il allait le vendre à la télévision.
Oui, Xavier Yvon, et puis en plus, Monsieur Biden est absent pour l'instant parce qu'il est confiné dans sa maison. Il paraît qu'on lui est en train de lui installer une salle d'où il va pouvoir s'exprimer, mais il est toujours dans la course, ainsi que Sanders, qui paraît peut-être pour beaucoup d'électeurs démocrates mieux approprié parce qu'il propose une couverture médicale gratuite et universelle. Alors tout peut être rejoué là dans la campagne contre Trump.
Oui, alors c'est très difficile à dire parce que la campagne est quasiment à l'arrêt. Les primaires un peu partout dans les États ont été suspendues, reportées. Vous avez la convention démocrate qui, vous savez, tous les 4 ans doit couronner le vainqueur de la primaire et désigner le champion pour l'élection. Elle devait avoir lieu en juillet, elle a été reportée en août, mais même ça, certains doutent qu'elle puisse avoir lieu, donc tout est gelé. Mais c'est vrai que Joe Biden, qui donc est en tête et supposé gagner la primaire avec toute l'avance qu'il a, Joe Biden lui est totalement inaudible. Il s'est effectivement, que vous l'avez dit Catherine, fait construire une sorte de studio chez lui dans le Delaware, d'où il essaie d'intervenir, mais ses directs à la télé passent très mal, il n'est pas bon, il n'est pas dans le ton, et puis surtout, il y a un autre personnage qui lui fait de l'ombre dans le camp démocrate, c'est le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui lui, fait vraiment le capitaine du bateau dans la tempête. On le voit tous les jours en direct à la télé, sur toutes les chaînes nationales, alors qu'il n'est gouverneur que de New York, mais il passe en direct parce que il donne des infos précises, il essaie de rassurer le public, il ne cache rien, et c'est lui aujourd'hui le visage des démocrates dans cette tempête coronavirus.
Comment réagissent les Américains à l'explosion de la pandémie, du nombre de morts ?
Ça dépend vraiment des États, en fait. Vous savez, ici, on sent vraiment, dans ce genre de crise, le fédéralisme, en l'absence d'une réaction vraiment nationale, parce que on parle de confinement partout dans le monde. Aux États-Unis, tout le monde n'est pas confiné. Tous les États n'ont pas appelé encore à la population à se confiner. Cette semaine, le Texas et la Floride ont finalement sauté le pas, mais vraiment un peu au dernier moment. Et la Géorgie, par exemple, et en Géorgie, le gouverneur, en annonçant le confinement, a expliqué que ça fait que 24 heures qu'il avait compris que le virus pouvait se propager par des gens qui n'avaient pas de symptômes. À peu près tout le monde qui suit l'actualité, c'est ça depuis des semaines. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est disparate dans le pays en fonction des États. Et donc, effectivement, à New York, tout le monde, où je me trouve, tout le monde a la sensation de panique et d'urgence. On voit le nombre de morts, le nombre de cas, on suit les directives du gouverneur, mais il y a d'autres endroits dans le pays où on regarde ça d'un peu loin, on regarde les briefings de Trump et où on ne s'inquiète pas forcément.
Oui, parce qu'on voit que les États les plus touchés, comme l'État de New York, de Californie, sont des bastions démocrates, alors que les taux de décès dans les États qui ont porté Trump à la présidence demeurent pour l'instant sensiblement plus faibles, peu atteints.
Oui, alors je vais revenir dans ce que vous avez dit, le « pour l'instant », parce que Il y a beaucoup d'experts qui expliquent que ça va arriver, que la vague est en train d'avancer. Et effectivement, aujourd'hui, la vague, elle touche des endroits qui sont certes démocrates, mais surtout qui sont les endroits les plus peuplés du pays, les plus densément peuplés. New York et la Californie, c'est là où il y a la plus grande densité, donc là où le virus s'est propagé le plus rapidement. Mais il est en train d'avancer. Et des experts expliquent que oui, les plaines du Midwest, oui, les bassins désindustrialisés vont être touchés. Et d'ailleurs, il y a un endroit qui est touché non pas par le virus pour l'instant, en tout cas pas à la hauteur de New York, mais qui est touchée par le cataclysme économique, c'est la Pennsylvanie, qui est un état très important dans l'élection américaine, et notamment pour l'élection de Donald Trump. En Pennsylvanie, c'est un endroit les plus touchés par le chômage qui explose depuis deux semaines. Depuis deux semaines, vous avez 10 millions d'Américains qui se sont inscrits au chômage. C'est du jamais vu.
Je voulais savoir juste ce qui se passe, parce que j'ai lu que le coût d'hôpital en Amérique, c'est 73 000 $ pour une semaine. Que se passe-t-il quand les Américains n'ont pas d'assurance? Est-ce qu'on les accueille, on les soigne quand même? Comment ça se passe, même s'ils ne sont pas solvables?
Alors, il n'y a pas de règle absolue, mais il y a un exemple, par exemple, d'un jeune homme en Californie qui n'avait pas d'assurance santé, qui a été refusé dans une clinique privée parce qu'il n'avait pas d'assurance. Et le temps qu'il soit transféré, il est malheureusement décédé, le temps qu'il soit transféré dans un hôpital public. Après, vous pouvez être soigné. Ce qu'il y a, c'est qu'après, vous aurez des factures énormes qui vont s'accumuler.
C'est peut-être l'occasion pour les Français de se rendre compte d'à quel point nous sommes un pays privilégié par rapport aux États-Unis. Écoutez, c'est formidablement intéressant tout ce que vous nous avez dit, et particulièrement d'un point de vue médiapolitique, le fait que Trump fait des quasi-séances de téléachat. Ça me rappelle un article qu'un professeur suisse a écrit dans le numéro de la revue Pouvoir que je dirige, je le dis d'autant plus que les livres se vendent pas en ce moment, et qui était sorti sur Trump et qui explique que Trump, c'est l'avènement de la télé-réalité en politique. Et c'est exactement ce que vous nous avez décrit, ce qui, pour tout vous dire, n'est pas forcément très réjouissant. Merci beaucoup et on vous retrouve très bientôt dans Mediapolis, Xavier Yvon.
Au revoir.
De rien, à bientôt.
Oui, Vincent Kaufmann, le professeur en question. Et on va terminer le tour du monde en allant dans une autre partie des Amériques, l'Amérique latine, dans un premier temps en Argentine, parce que Catherine Ney a eu l'excellente idée de solliciter Dominique Bressot, qui revient d'Argentine et qui était l'ancien spécialiste commentateur de la Formule 1 sur Europe 1. Et puis ensuite, par Alice Baudry, on aura quelques échos du Brésil. On fait une dernière petite pause d'une minute et on file sur l'Argentine.
Comme chaque samedi jusqu'à 11h, on vous retrouve Olivier Duhamel et Catherine Ney pour Mediapolis, et vous continuez tout de suite à prendre des nouvelles des autres pays comme l'Argentine, Catherine.
Oui, Dominique Bressot, bonjour.
Bonjour à tous et bonjour à toutes.
Oui, vous êtes une grande voix d'Europe 1, et alors aujourd'hui vous vivez la moitié de votre temps en Argentine. Alors je voulais savoir comment se porte le virus dans le pays où vous êtes.
Alors, un mois après l'apparition du virus en Argentine, on compte 1353 cas positifs et 42 décès, j'allais dire seulement. La grosse majorité des cas se trouvant concentrés dans la capitale Buenos Aires et ses environs. Et il n'est pas inutile de rappeler que la superficie de l'Argentine, c'est 5 fois et demi celle de la France, mais il n'y a que 45 millions d'habitants. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le nouveau président argentin, en fonction depuis le début décembre, a pris très rapidement des mesures alors qu'il n'y avait qu'une dizaine de cas et un seul décès à déplorer. C'est ainsi qu'en l'espace d'une semaine, entre le 12 et le 19 mars, il a d'abord interdit l'arrivée des compagnies aériennes en provenance des pays les plus contaminés, donc notamment l'Europe et les États-Unis. Les touristes étrangers et les Argentins revenant de ces pays étaient placés en quarantaine pendant 14 jours. Les personnes âgées de plus de 60 ans étaient priées de rester chez elles. Et enfin, le 19 mars au soir, l'ensemble de la population était confinée. Le président argentin a voulu agir vite, car cette période du début mars correspondait à des retours de vacances d'été. Et où vont les Argentins en vacances? Eh bien, ils vont visiter la famille qu'ils ont en Italie, en Espagne, en France aussi et aux États-Unis. Donc, autant de risques potentiels de contamination, évidemment. Et c'est pour cela que les autorités ont voulu faire vite.
Oui, et pour faire respecter le confinement, il a même lancé un numéro de téléphone que les Argentins dénoncent ceux qui ne respectent pas les lois de confinement. C'est de la délation, quoi.
Effectivement, il était publié dans les journaux et communiqué aussi par des spots télévisés. Un certain nombre de numéros d'urgence à appeler en cas de besoin. Et parmi ceux-ci, il y avait et il y a toujours le 134. Et le 134, c'est effectivement un numéro réservé à la délation. C'est-à-dire que, Catherine, par exemple, vous constatez que votre voisin de palier, forcément un cher voisin, s'est mis subitement à sortir son chien 7 à 8 fois par jour et à chaque fois pendant un long moment. Eh bien, vous faites le 134, vous racontez votre histoire, vous serez cru sur parole et votre voisin recevra la visite de la police qui lui demandera de se justifier. Et si ces sorties sont considérées comme abusives afin de ne pas respecter le confinement, il y aura une amende à la clé et l'amende sera d'autant plus salée si vous habitez dans un beau quartier. Et vous pourrez aussi être poursuivi en justice pour mise en danger de la santé publique. Et je précise une dernière chose, Catherine, et on va rester dans l'hémisphère sud. La Nouvelle-Zélande a fait exactement pareil, sauf que ce n'était pas un numéro de téléphone, mais un site internet en Nouvelle-Zélande qui a eu tellement de succès qu'il a buggé dès son ouverture.
Oui, alors l'Argentine a subi une grave crise économique dont elle a toujours du mal à sortir. Alors on imagine que beaucoup de gens sont dans le besoin. D'ailleurs, beaucoup n'ont pas de compte en banque. Alors comment peuvent-ils toucher les aides? Et la même chose pour les retraités. Qu'est-ce qui se passe?
C'est compliqué parce qu'effectivement, beaucoup d'Argentins préfèrent avoir l'argent cash à la fin du mois. Et parmi eux, les retraités. Il y a 2 millions de retraités qui vont tous les mois à la banque pour toucher leur pension au guichet. Or, les banques étaient fermées, elles viennent d'ouvrir 3 jours pour les retraites depuis hier. Vous imaginez les files d'attente qui atteignaient parfois hier jusqu'à 2 km sans que les distances de sécurité entre les uns et les autres soient bien respectées. Certains ont passé toute la nuit de jeudi à vendredi dehors pour être sûr de pouvoir rentrer dans la banque, alors qu'il commence à faire un peu frais, c'est le début de l'automne. C'est tout le paradoxe de ce pays qui a demandé aux personnes de plus de 60 ans de rester chez elles, et puis celles-ci se sont retrouvées dehors, dans la foule, pour toucher les retraites, parce que les banques avaient fermé. Le président argentin, Alberto Fernandez, a exigé qu'elles restent ouvertes aujourd'hui samedi, elles le seront encore en début de semaine, mais cet épisode-là, de personnes âgées exposées à tous les risques en faisant la queue, a provoqué, pour la première fois, une colère générale dans tout le pays.
Ah oui. Mais est-ce que le président Fernandez est populaire? Il a un regain de popularité avec ces mesures?
Alors jusqu'à cet accès de colère hier, à cause des retraités dans la rue, il a été quand même, les mesures qu'il a prises ont été bien accueillies. Il y avait un doute sur ses capacités à gouverner, d'autant plus qu'il est associé à une vice-présidente, Cristina Kirchner, qui a défrayé la chronique, puisqu'elle a une douzaine de procès sur le dos pour détournement de fonds et abus de biens sociaux. Et personne ne savait si le président allait être la marionnette de Cristina ou s'il allait faire face. Eh bien, c'est lui qui s'est mis aux manettes, qui a pris des décisions. Cristina, elle était à Cuba, partie chercher sa fille. Elle est rentrée, mais elle s'est mise en quarantaine. Et tout le monde a été agréablement surpris de voir le président Alberto Fernandez agir aussi rapidement. Et l'opposition s'est aussi d'ailleurs félicitée de l'efficacité du nouveau président.
Merci infiniment, Dominique Bressot. C'est très précieux et on voit qu'il y a des points communs de personnalités politiques, de dirigeants politiques qui étaient un peu effacés, qui étaient un peu vus de haut et qui se révèlent dans cette crise. On l'a vu tout à l'heure avec Blandine Hugonet pour Giuseppe Conte en Italie. On vient de le voir grâce à vous avec Alberto Fernandez en Argentine. Et bien, pour terminer, un petit coup d'œil sur le Brésil avec donc un article du New York Times que a découvert pour nous Alice Baudry, qui dirige la communication et le marketing à l'Institut Montaigne et qui surveille les médias internationaux pour nous. Plusieurs dirigeants mondiaux, parmi lesquels Trump ou Johnson, ont mis du temps à réagir à la crise, mais ils ont finalement cédé. Pas du tout au Brésil. Monsieur Bolsonaro reste le seul leader mondial à éviter à tout prix le consensus scientifique sur les mesures de confinement, douloureuses mais nécessaires. Et le New York Times explique qu'il est isolé, défiant, en déni. Ses prises de parole. 1. Il a qualifié le virus de rhume minable. 2. Il a dit « Les Brésiliens sont particulièrement adaptés pour résister à la pandémie. Ils pourraient se baigner dans des eaux usées et ne rien attraper. » Puis, s'agissant du remède au virus, il explique devant des foules de partisans « Dieu est brésilien, le remède est là. » Et enfin, dans une allocution télévisée mardi soir, il a même parlé du virus. Plus exactement, il a quand même parlé, pour une fois, du virus dans des termes un peu plus graves, en le qualifiant de plus grand défi de notre génération. Mais il a ajouté tranquillement « Les effets collatéraux des mesures de lutte contre le coronavirus ne peuvent pas être pires que la maladie réelle. » Voilà comment au Brésil, on a une forme de dénégation. Pour terminer, une chanson, une légende de la soul s'est éteinte hier, à l'âge de 81 ans, Bill Withers. Malgré une carrière relativement courte, sur une quinzaine d'années, il laisse derrière lui des morceaux de soul mondialement connus. Ain't No Sunshine est son tout premier succès, issu de son premier album Just As I Am, sorti en 1971. Ain't No Sunshine, je vais dédier cette chanson. Il n'est pas mort du coronavirus, Bill Withers. Je dédie donc cette chanson à tous ceux qui souffrent, qu'ils ou qu'elles ne soient plus là, aux morts du coronavirus ou aux morts tout court.
Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's his house, just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Ain't no sunshine when she's gone and in this house just ain't no home. Il n'y a pas de soleil quand elle n'est pas là et cette maison me devient étrangère. Sublime chanson de Bill Withers. Un grand merci à nos invités, à nos correspondants, à Jean-Luc Arblat qui a réalisé l'émission, Thibault Lambert qui l'a préparé, Julie Holman qui l'a accompagné et à nos chefs d'antenne sans lesquels l'émission aurait été tout simplement impossible, Michel Lehenaf et Guillaume Zorga. Nous nous retrouvons samedi prochain. Vous pouvez faire écouter l'émission en podcast sur europe1.fr et en attendant, vous retrouvez Laurent Mariotte. Salut Laurent.